cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 5 mars 1986.
Essayer d'analyser successivement l'amour fondamental qui porte sur le bien, la découverte de ce bien comme fin. Là joue une induction d'ordre pratique dans une analyse. Vous auriez dû être plus prudent. aurais dû faire attention. Même si ce n'est qu'un conseil, le conseil d'un acte moral qui implique, donc, qu'on accepte de coopérer. Vous pouvez très bien dire, écoutez, étant donné ma situation, étant donné la difficulté dans laquelle vous vous trouvez, j'aime mieux pas vous donner de conseils. Je suis complètement incompétent dans ce domaine. Allez trouver un autre. Il y a toujours des gens qui se défilent. Quelquefois, ils se défilent objectivement parce qu'ils sont vraiment incompétents. Il y a des gens qui donnent des conseils avec une incompétence à part. Mais là, ils fourvoient les gens. Et puis il y a des gens qui sont très compétents et qui ne donnent jamais de conseils. Parce que c'est tellement difficile de se mettre à la place d'un autre. Et on a déjà tellement de difficultés pour prendre des décisions soi-même qu'en ajouter aux autres, c'est impossible. On voit très bien ça. Le conseil implique un acte moral, un acte à la fois d'amour et puis d'intelligence. Et vous voyez que dans le conseil, l'aspect intelligence est particulièrement fort. Vous êtes compétent pour donner des conseils. C'est pas suffisant d'aimer beaucoup. Ah, je vous aime beaucoup, alors je vous mets tout de suite dans votre situation. C'est merveilleux, je comprends très bien le problème. Je vois très bien. Puis on dit une grosse bêtise parce qu'on est complètement incompétent. C'est pas suffisant. Mais c'est un acte fait qu'on coopère, qu'on doit aider, même si le conseil demeure anonyme. C'est ça qui est très curieux, c'est qu'un conseil peut demeurer anonyme. Étant donné telle ou telle circonstance, ne dites pas que je vous ai donné conseil. C'est mieux. C'est mieux pour vous et c'est mieux pour moi. Ça arrive, ça. Il faut de temps en temps reconnaître ça. Oui, parce que c'est un acte d'intelligence. Je peux demander à d'autres conseils. Je ne peux pas demander à quelqu'un de choisir pour moi. C'est impossible. De temps en temps, on aimerait bien. Quand il s'agit d'entrer dans la communauté, n'est-ce pas ? On choisit. Un autre ne peut pas choisir pour nous. C'est impossible. L'amour, l'intention et le choix sont des actes dans lesquels l'amour est premier. Et c'est pour ça qu'un autre ne peut pas aimer à notre place, ne peut pas avoir une intention de vie à notre place, et ne peut pas choisir pour nous, tandis qu'un autre peut nous donner conseil. C'est l'aspect intellectuel qui domine dans le conseil et qui explique comment, étant donné le côté plus universel, plus objectif, il peut y avoir un autre qui intervient. Et un autre peut nous donner vraiment conseil. Et même, c'est bon, quand il s'agit de décisions importantes, de demander conseil à plusieurs personnes. On ne demande pas nécessairement conseil à une seule personne. C'est toute la question d'information. Alors, pas l'information uniquement au point de vue technique. Il y a des informations techniques qui sont de plus en plus intellectuelles. Mais il y a une information là d'ordre pratique qu'il faut autant que possible qu'on connaissent les personnes intéressées. Ou bien on vous dit, je ne vous connais pas, je vous donne ce conseil tout à fait objectivement, mais c'est vous à voir. Et vous devez être suffisamment lucide pour modifier votre conseil. C'est pas si commode que ça de donner conseil. Il faut, je crois, au point de départ, être très prudent. On va revenir là-dessus. Instinctivement, quand il s'agit de donner conseil, on part de la prudence. Alors que le conseil est antérieur à la prudence. Mais quand on est prudent, on donne de bons conseils. Si vous êtes imprudent, vous donnerez de mauvais conseils. Même si vous êtes très compétent, vous pouvez être extrêmement compétent dans des matières et être complètement imprudent et donc te donner de très mauvais conseils. Un homme de bon conseil est un homme prudent. Alors qu'est-ce que ça ajoute à la prudence, voyez ?
la prudence à différents actes. Nous le verrons. En regardant les vertus, actuellement, je regarde les actes antérieurs aux vertus, puisque les vertus morales sont des vertus acquises. Alors, il y a une question très importante et intéressante de se demander si donner conseil est suffisant pour que la vertu de prudence puisse naître en moi. C'est très, très curieux. Est-ce que le simple fait de donner de bons conseils, autant que possible, les meilleurs conseils possibles, est-ce que c'est cela qui vous fait acquérir la vertu de prudence? Ou est-ce qu'il faut d'autres actes beaucoup plus proches de la vertu de prudence pour que la vertu de prudence puisse être acquise? Vous voyez, parce que la vertu de prudence implique, comme nous le verrons, différentes activités. Parmi ces activités, il y a le conseil. Bien, je crois que le conseil ne suffit pas. Je crois qu'un œil, un homme uniquement de bons conseils, un homme de bons conseils, un homme habitué à donner conseil et qui ne ferait que cela, il faut que lui-même ait un engagement de vie. Du reste, je crois que pour donner un bon conseil, il faut déjà être engagé. Vous voyez, un dilettante qui n'est absolument pas engagé dans sa vie sera incapable de donner de bons conseils. Il pourrait être très compétent. Il y a des gens extrêmement compétents qui sont des dilettantes. Remarquables. Je dirais, plus ils sont compétents, plus on a l'impression qu'ils sont dilettantes. Ils peuvent se payer ce luxe de dilettante. Ils sont très, très compétents. Mais pas dans les choses humaines, dans les choses techniques, dans les choses scientifiques, dans les choses économiques. Ils peuvent être très compétents, ils ne sont pas engagés. Et alors, quelqu'un qui n'est pas engagé, je crois, ne peut pas donner un bon conseil. Parce que justement, pour être prudent, il faut être engagé. Il faut avoir une finalité de vie. C'est ça, être engagé, c'est avoir une finalité dans la vie. Si on n'a pas de finalité, on n'est pas engagé. Et donc, on est incapable de porter un acte juste au point de vue du conseil. Donc, vous voyez, le conseil est un acte humain intermédiaire entre le point de vue de l'intention de vie et l'élection des moyens. Quand l'élection des moyens est particulièrement importante, que nous allons voir tout de suite. Quand l'élection des moyens est particulièrement importante, l'information et le conseil est particulièrement important. Et il serait souvent souverainement imprudent de ne pas demander conseil à un autre. C'est pas suffisant de dire je vais réfléchir, je vais méditer, et au fond, après tout, c'est moi qui connais le mieux la situation. C'est pas la peine d'en parler aux autres. C'est une petite tentation, ça. Alors on s'enferme dans son propre jugement. Et alors on s'entête. Il y a des gens entêtés, incapables de recevoir un conseil d'un autre. Je crois que très souvent, il y a une répercussion là, dans la vie, concrètement. C'est que quand on est entêté, il y a quelque chose au point de vue prudentiel qui n'est plus tout à fait au point. C'est les voies déterminées de l'art, pas du grand artiste, mais les voies déterminées du petit artiste systématique. Et sur les petits artistes qui sont les plus ennuyeux. Alors c'est les voies déterminées de l'art qui remplace cette espèce de souplesse de la prudence dans l'ordre des moyens. Nous allons regarder maintenant quelque chose qui fait qu'on revient au point de départ. Je crois que c'est bon, parce qu'il y a la question à être posée, c'est pour ça que j'y reviens. Nous sommes partis conscience de l'amour d'amitié. Et dans cette expérience de l'amour d'amitié, nous avons essayé de discerner les différents moments de l'activité humaine. Et nous avons vu que tout amour d'amitié implique un amour à l'égard d'un bien spirituel, une personne humaine. Que cet amour d'amitié implique que cet ami soit considéré comme une fin. Ce n'est pas une fin absolue, mais c'est une certaine fin, c'est un bien absolu. Fin, ça veut dire un bien absolu et non relatif. C'est la différence entre la fin et le moyen. Et puis, troisièmement, les moyens pour atteindre cette fin. Et vous voyez bien que les moyens pour atteindre la fin, c'est parce qu'il y a hiatus entre l'attitude affective par laquelle je suis uni au bien et que ce bien est éloigné dans la réalité physique. Il y a un hiatus entre l'union affective et l'union effective. S'il n'y avait pas ce hiatus entre les deux, il n'y aurait pas besoin de choix de moyen. Quand celui que j'aime, je le possède et puis c'est tout. Je n'ai pas besoin de chercher les moyens, puisqu'il m'est donné. Et donner directement. Et ça, c'est très intéressant, du reste, de voir ce télescopage de la phase d'élection, parce que la fin devient immédiate. Mais normalement, le bien choisi comme fin, c'est-à-dire comme absolu, j'ai l'intention à lui. Je tends vers lui. Je suis uni affectivement, mais je ne suis pas uni effectivement. Et parce qu'il y a le hiatus entre les deux, et que l'amour réclame ce réalisme, quand il s'agit de l'amour d'une personne, ce réalisme d'une présence, et d'une présence physique, sensible, pas seulement intentionnelle. Aimer intentionnellement quelqu'un, même s'il est très très loin de moi. Mais l'intentionnalité, quand elle demeure uniquement l'intentionnalité, sans découvrir un réalisme de la présence, cette intentionnalité de l'amour s'use et n'a plus le même mordant et n'a plus la même force. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix que cette intentionnalité soit incarnée dans le choix des moyens. Et le choix des moyens permet justement de découvrir la possibilité d'être uni, non seulement intentionnellement, mais effectivement. Donc distinguons bien cela. L'intention, c'est ce qu'il y a de premier, c'est ce qu'il y a de plus profond. Et l'intention demeure dans l'ordre affectif, une intentionnalité affective, qui a une certaine efficacité, c'est bien évident. Autrement, de l'intention ne naîtrait pas le choix des moyens. Puisque de l'intention naît le choix des moyens, il faut que cette intention implique une certaine décision. Et donc, quelque chose d'effectif, une certaine efficience. Je prends ma vie en main. Vous voyez comme on le dit du reste. Quand on dit je prends ma vie en main, ça c'est l'intention de vie, c'est l'orientation qu'on fait. Donc, l'union affective implique dans la décision un désir d'une union plus réelle du côté sensible, du côté visible. Physique. Comme cette intention de vie est avant tout dans l'ordre de l'intention affective, elle réclame des moyens un bien utile n'est pas aimable par lui-même, par définition. Il est aimable dans la mesure où il est ordonné à la fin. Mais pas en lui-même, non. C'est pour ça que quand la finalité n'est plus suffisamment en acte, on abandonne même les moyens. On est las au milieu du carême. Les moyens choisis avec une grande ferveur au début. La finalité n'est plus aussi présente.
Considère que cet amour est impossible. Ça peut arriver. Je suis déjà engagé dans une vie.
consacré totalement à Dieu. Et voilà que tout d'un coup, un petit bourgeon pousse. Et je commence à aimer quelqu'un. C'est extraordinaire, je me suis trompé. J'étais trop vite dans mon choix. Et c'est ce que disaient certains prêtres quand ils quittaient tout, en disant, j'ai entendu cette réflexion, c'est pour ça que je l'ai dit. Il faut être fidèle à la vie. Alors, fidèle à la vie. Alors, on a dit, quoi, fidèle à la vie? Oui, il faut fidèle à l'amour. C'est celui-là. Tant que vous êtes infidèle pour être fidèle. Alors ça, ils étaient très gênés quand on disait ça. Parce que pour eux, c'était la spontanéité. Fidèle à la spontanéité. Ah non, attention, attention. Et c'est vrai. Quand on viendra sur la liberté, on verra que il y a là un acte libre qui est très fondamental. J'accepte ou je n'accepte pas, madame. Parce que je le juge légitime ou que je le juge illégitime, bon ou mauvais. Et je suis capable de le faire. Je suis capable d'accepter ou pas accepter. C'est quand j'accepte un amour que cet amour me finalise. Tant que je n'ai pas accepté, il ne me finalise pas. C'est quand il me finalise qu'il arrive à mobiliser toutes mes forces. Accepté comme fin, il ne mobilise pas toutes mes forces. Je suis pris. Oui, il y a un petit sentiment, même quelquefois beaucoup plus. Je sens qu'il y a quelque chose qui me prend profondément. C'est un amour spirituel. C'est pas uniquement un amour passionnel, donc c'est un amour spirituel. C'est quelque chose de profond. J'aime cette personne. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime. Ça, fondamentalement, moi, je suis libre d'accepter ou d'accepter de faire que cet amour me finalise. Ah, ça peut être très dur de dire non si cet amour est déjà très ancré en moi. Et comme c'est un amour spirituel, peut-être très profond. Et donc, ça peut être très rude. C'est l'arrachement du temps de sagesse. De très très profond. Je dis ça parce que Platon dit que l'amour c'est comme les dents qui poussent. C'est l'analogie qu'il prend. Alors quand c'est les premières dents, c'est facile. Tandis que la dent de sagesse, c'est pas commun à arracher. C'est dur, dur, dur. Donc je peux accepter cet amour, le refuser. Si je l'accepte, la personne qui est mon bien devient ma fin. Et cette fin, comme elle n'est pas immédiate, elle implique encore une nouvelle décision. Vous voyez, troisième modalité de l'amour. Au fond, c'est trois formes d'amour. C'est trois formes d'amour. Mais qui ont trois modalités différentes. Un premier amour fondamental qui s'impose. On ne peut pas obliger quelqu'un d'aimer. C'est impossible. C'est tellement mystérieux. Ça pousse ou ça ne pousse pas. Évidemment, il y a des terrains favorables. Il y a des soleils favorables. Il y a des températures favorables. Et ainsi de suite. Il y a des climats, des milieux. Mais ça s'impose. Cet amour qui devient fin, je l'accepte, je le reconnais, il me finalise. Et cet amour qui me finalise, l'ami, je le choisis. Ah ! Alors, je le choisis comme ami. Vous voyez, le bien, il est bien, il suscite l'amour. Il est bien fin, il polarise. Ce troisième moment, quand on choisit un ami, est-ce que c'est une dégradation si le choix porte sur un moyen, je fais de l'ami qui est
été considéré comme un absolu, quelque chose de relatif. Vraiment, c'est pas fameux. Restons uniquement toujours dans l'intention. Je souligne, il y a quelque chose de juste, il faut être très attentif à ça. Il y a quelque chose de juste. Quand je choisis l'ami comme ami, je veux qu'il y ait une certaine communion de vie. Un ami, on le choisit pour vivre avec lui. Et donc, d'une certaine manière, l'ami devient beaucoup plus proche quand je l'ai choisi. Il est beaucoup plus proche. Je veux que l'amour initial que j'ai pour lui s'incarne, devienne quelque chose de beaucoup plus fort en moi. Et donc, l'ami s'approche. Ce n'est plus un bien lointain. Ce n'est plus une fin. C'est un bien immédiat. Donc, je peux user. Vous voyez comment le point de vue du bien utile apparaît. Vivre avec quelqu'un, c'est user de cette personne. Dans une vie commune, on use de la personne qui est proche de nous. Et c'est pour ça que ça s'use. Parce que, de fait, voyez, si on était tous dans une vie commune, tous, dans une petite chalet lointain, petite hutte, dans un petit ermitage. J'avais rêvé ça, une communauté où chacun soit dans un ermitage. On s'aime du côté intentionnel beaucoup plus. Du côté du choix, c'est plus lointain. Les sensibilités ne s'exaspèrent pas. On n'use pas de la personne qu'on aime. On la regarde toujours de loin, à travers une vitrine. Le phénomène de séduction est beaucoup plus fort. C'est la grande façon de séduire les gens, vous savez bien. C'est un truc, il ne faut pas le faire. Mais il faut savoir. Séduire, c'est se tenir toujours à distance. C'est jamais laisser l'autre avoir la main sur vous. Dès que vous êtes un moyen, vous ne séduisez plus. Ne soyez jamais moyen. Qu'on ne vous choisisse jamais comme ami, vous séduirez. Le jour où vous choisissez, la séduction tombe. C'est ça qui vous désire de saisir. La séduction implique une certaine distance. C'est pour ça que c'est derrière la vitrine. Un jouet, ça vous séduit quand c'est derrière la vitrine. Quand on vous le donne et que vous avez commencé de l'utiliser la première fois, très heureux, au bout de quelques temps. Enfin, mais mon petit, tu étais séduit pour ça. Ah oui, maintenant je sais, j'ai utilisé. Utiliser une chose supprime la séduction. C'est très mystérieux. Mais intensifie l'amour. Il y a là un jeu qui est très cru entre l'aspect, vous voyez, de l'intention de vie qui porte sur le bien absolu, la fin, et le point de vue du choix. Porte sur un moyen. Évidemment, l'ami n'est pas un moyen. Il est choisi comme ami, mais il est quand même choisi. Et il est choisi en tant qu'ami. Et il est choisi dans un choix réciproque pour qu'on puisse vivre ensemble. L'ami, c'est toujours celui avec qui on vit. s'organisera quand même de se rencontrer. Vous voyez, il y a une certaine vie commune, pas absolue, mais une certaine vie commune. Parce qu'il y a une connaissance plus grande, une rencontre plus intense. C'est là où l'ami n'est plus uniquement la fin. Coopérer avec quelqu'un, c'est l'utiliser. Rencontrer quelqu'un et vivre avec quelqu'un, c'est l'utiliser. C'est un tissu de relations communes qui fait qu'on fait quelque chose ensemble. Alors, tout l'aspect lointain de la fin tombe. La fin, c'est du fait même qu'elle est lointaine. Alors elle peut séduire, elle peut séduire. Et au contraire, lorsque c'est tout proche, ça séduit moins. Alors on dira erreur sur la personne. Quand tu étais loin, c'était admirable. Je te croyais quelqu'un d'extraordinaire. Maintenant que je vis avec toi, banal. Ça vaut pas mieux. L'élection. Vous voyez, c'est ça qui me semble important à saisir. L'élection à l'égard d'une personne. Si dans l'élection, on ne voit pas le bien qui est tout proche de moi, et qu'on voit que l'élection réciproque, on risquera toujours de faire que la personne aimée, quand elle devient la personne choisie, elle perd quelque chose de sa noblesse, quelque chose de son absolu, parce qu'elle est plus proche. C'est courant du reste. On dit que pour se faire respecter, il faut garder les distances. Je me souviens, c'était au début du théâtre de Fribourg. J'avais un père dominicain qui avait un très grand sens de l'autorité et qui au début m'a dit: vous êtes beaucoup trop proche de vos étudiants, vous ne serez pas respecté. Alors je lui ai dit: on verra lequel des deux est le premier chahuté. Il m'a regardé avec un regard très inquiet, parce que toute sa dignité, c'était... Dis oui, il y a une manière d'être proche et de garder son autorité. Il y a une manière d'être choisi et de garder tout l'absolu de la fin. C'est ça qui est important à voir. Et alors ça, c'est très curieux, parce que ça fait comprendre que l'élection est subjective et qu'elle peut porter sur un absolu. Je peux choisir un absolu. Heureusement que je peux choisir un absolu. Quand on choisit une vocation, on choisit un absolu. Et on la choisit. On peut choisir un absolu. Je peux choisir Dieu comme mon bien. Je peux choisir le Christ comme mon bien. Il est choisi, il est aimé. Donc, le choix, sa qualité de choix, vient plus du point de vue subjectif que du côté objectif. Du côté objectif, le choix premier, c'est un moyen. Du côté subjectif, le choix peut très bien porter sur un absolu. Je choisis un absolu. C'est très important, ça. C'est très, très important, parce que si vous dites il faut choisir, donc il faut relativiser. À ce moment-là, vous supprimez l'amour. Vous voyez, quand il y a un souci trop grand d'adaptation, qu'on a voulu tout adapter, point de vue philosophique. Parce qu'on dit d'habitude que c'est justement l'objet qui détermine. Et donc c'est le bien relatif qui détermine. Or là, vous dites, c'est un bien absolu qui détermine un choix. Eh bien oui, un bien absolu peut déterminer un choix. Et alors, le choix devient avant tout une attitude subjective différente de l'intention de vie. Et comment ça se fait, ça? Comment ça peut se faire? C'est parce que justement, le bien fin ne m'est pas donné directement. Mais dans la mesure où je peux l'atteindre directement, je le choisis. Donc, c'est plus la question de la distance qui existe entre le sujet et le bien que la différence entre le bien absolu et le moyen. C'est donc un aspect subjectif qui fait comprendre comment je peux choisir un absolu. Et je choisis à travers quelque chose qui est tout proche de moi. Je m'explique pour que vous compreniez bien ça, parce que ça, je crois que c'est très important. C'est très important pour bien saisir l'analyse de l'acte moral et bien saisir ce que c'est que l'élection. Je peux choisir en relativisant. Après tout, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen. La vie religieuse, ce n'est qu'un moyen. Donc, je garde foncièrement ma liberté par rapport à la fin. Évidemment, quand il y a des vœux perpétuels, le moyen devient un tout petit peu plus contraignant. Parce que le moyen touchant l'éternité, ça fait l'éternité dans le temps. C'est donc un certain absolu qui vient pour un moyen. C'est très vrai, donc je devrais faire un peu plus attention. Alors je relativise encore, je peux relativiser encore. Ça reste toujours un moyen. Un moyen qui s'impose, un moyen que je choisis pour toute ma vie. Et c'est un moyen. Et j'accepte que c'est pour toute ma vie. Je me lie à ce moyen. Et c'est un moyen. Je peux au contraire considérer que ce moyen demeure conjoint à la fin. Il y a des moyens qui sont conjoints à la fin. Alors quand ce moyen est conjoint à la fin, à ce moment-là, je l'aime. Avec tout l'absolu de la fin. Et je ne le relativise plus. Je fais le mouvement inverse. Vous voyez donc, il y a dans le choix, et c'est pas étonnant, étant donné que c'est tellement complexe le choix, il y a dans le choix la possibilité de relativiser. Et il y a dans le choix la possibilité d'absoluter, de rendre absolu quelque chose qui est immédiat et qui est lié à la fin. Alors je lui donne un caractère d'absolu, je lui donne une force nouvelle. Enfin, réfléchissez à ça, parce que c'est très important de voir comment je peux choisir un ami, tout en respectant que cet ami me dépasse et me finalise, et que je l'aime. Et pourtant, je le choisis. En le choisissant, il y a un aspect